bienvenue dans la deuxième partie de la Grande Table. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la quête d'un ailleurs inaccessible avec notre invitée, la philosophe Elisabeth de Fontenay, pour Gaspard de la Nuit, qui paraît chez Stock. Elle vient de recevoir le prix Femina Essai pour ce livre, cette autobiographie de son frère, comme elle l'appelle, auquel elle prête sa voix, une fraternité retrouvée par l'écriture, pour celle dont le travail était traversé jusqu'ici par la question juive et la condition animale. Bonjour Elisabeth de Fontenay.
Bonjour.
Quelle est cette différence qui vous sépare, lui et vous ?
Eh bien, il a été un enfant différent et il reste un adulte et un vieil homme différent. Différent de qui ? Différent de moi, bien sûr, mais différent de tous les autres, enfin de beaucoup d'autres, statistiquement. Et il lui manque ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé toute ma vie, pour moi, probablement à cause de lui. Il lui manque la subjectivité, la conscience de soi, la possibilité de dire « je », la possibilité de dire « tu », voilà. La différence entre nous.
Et quand on peut dire « je », quand on peut dire « tu », quand on peut avoir cette subjectivité, on peut aussi raconter sa vie et regarder à l'intérieur de soi. Vous avez donc choisi de poser votre regard au fond de ses yeux à lui. Il est beaucoup question de vos regards réciproques dans ce livre, de cette différence. Il vous est arrivé de ne pas vouloir la voir, de détourner le regard.
Oui, bien sûr, bien sûr. De même que lui détourne le regard quand il se regarde dans la glace. Et je crois que ce qui lui manque, c'est le stade du miroir, pour parler comme Lacan. Et c'est vrai que je me suis détourné de lui parce que eh bien, j'ai eu ma vie à conduire, à mener. Et mes parents s'occupaient de lui. Et puis ensuite, quand le dernier de mes parents est mort, c'est retombé, si j'ose dire, sur moi. J'ai été chargé de lui. Et à ce moment-là, la responsabilité écrasante et le malheur sont tombés sur moi. Et je n'ai plus pu m'abriter dans mon exception splendide de philosophe. Il a fallu que je fasse face à son existence, à son absence de réponse, à son absence d'empathie, à beaucoup de choses qui me faisaient beaucoup souffrir, parce que je n'ai jamais accepté de le traiter comme un malade. Je n'ai jamais fait de psychanalyse, donc je n'ai pas interrogé ma relation avec lui. Et je l'ai toujours traité comme quelqu'un de normal, c'est-à-dire en lui faisant des scènes, en l'engueulant. Quand il faisait des choses qui ne me plaisaient pas ou qui étaient dangereuses. Et je n'aimais jamais comme un cas clinique. Parce que ça, je ne pouvais pas. Je n'avais pas les moyens. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas aide-soignante, je ne suis pas aide de vie. Voilà. Et j'ai toujours été partagé entre une certaine exaspération de son état et une très grande pitié et un très grand amour.
Et souvent, quand on rudoie l'autre, c'est aussi parce qu'on espère, au fond, une réaction.
C'est exactement ça. J'ai toujours espéré de lui une réaction. Et jamais je n'ai obtenu. Sauf des réactions pour se conformer à ce que sa mère lui avait appris de convenable, de poli, de sociable, de courtois. Et là, il fait un effort. Chaque fois que je lui fais remarquer quelque chose, il fait un effort. Mais sur toutes les questions qui ont rapport avec la réalité, il ne se passe rien.
Elle vous racontait comment plus jeune, il y avait peut-être la peur ou la crainte qu'il vous ralentisse. Vous, vous étiez une fonceuse et il fallait accélérer. Donc pas trop regarder la différence de l'autre, de votre frère. Et comment aussi il est devenu, quand vous avez pris conscience de votre différence, de sa différence à lui, un empêcheur de tourner en rond. Il y a eu de l'agacement, il y a eu de la colère aussi face à cette absence d'affect, cette apparente froideur, son indifférence. Vous écrivez le mal dont il pâtit, c'est l'innocence. Il ignore la malveillance, le mensonge, la dissimulation. Il réagit depuis si longtemps comme une victime. Le mal dont il pâtit, c'est l'innocence. Ce qui est très particulier dans cet ouvrage, qui n'est pas vraiment un essai, même s'il vient de recevoir le prix Femina Essai, c'est un document, c'est une autobiographie de votre frère, c'est que vous ne nommez pas cette différence, vous ne lui donnez pas un nom précis, alors qu'on a tellement l'habitude et de diagnostiquer et d'étiqueter ces différences, parce que ça nous rassure aussi.
Mon frère a 80 ans, et à l'époque de son enfance, de son adolescence, la psychiatrie ne faisait pas de diagnostic très clair. Et je n'ai jamais rien entendu d'autre que psychose infantile, ce qui ne veut pas dire grand-chose, psychose infantile. Mais il n'est pas autiste. Encore qu'il sa coupure avec la réalité le fasse ressembler à un autiste, mais il n'est pas autiste. Il n'est pas non plus complètement délirant. Il a été un peu délirant, mais très très peu. Donc, moi, je ne sais pas comment nommer. J'ai demandé à beaucoup de médecins. Personne ne m'a répondu.
Vous avez demandé à des médecins et vous avez aussi fouillé dans les tiroirs de vos parents.
Oui, alors là, il n'y avait rien.
pour retrouver les diagnostics possibles, les feuilles médicales.
Il n'y avait rien.
Psychose infantile, c'est quoi? C'est une maladie?
Oui, c'est une maladie. On parlait de la schizophrénie en ces termes. On peut pas dire que mon frère est un schizophrène. Peut-être qu'il le serait devenu, je ne sais pas, s'il n'avait pas été traité par des neuroleptiques en Suisse. Des neuroleptiques qui l'ont complètement hébété. Mon frère n'est plus ce qu'il était depuis l'âge de 17 ans. Voilà.
Mais psychose infantile, c'est aussi un état qui pourrait être transitoire. Donc c'est aussi un espoir. C'est peut-être cette différence dont on pourrait sortir.
Peut-être.
Est-ce que votre mère, elle a beaucoup vécu avec cet espoir-là, celui du déclic, celui de la guérison?
Non, mais elle a beaucoup vécu avec l'espoir d'une amélioration. Par exemple, elle a rêvé à une certaine époque où mon frère était dans une ferme en Suisse. Une ferme qui dépendait de l'établissement psychiatrique où il avait été. Elle a beaucoup rêvé de l'installer à la campagne, dans une ferme. Et c'était des rêves tout à fait fous. Donc elle délirait un peu sur son amélioration, sur sa capacité de vivre autonome. Mais jamais, je crois que jamais, elle n'a pensé à une guérison. Je pense que sa différence était trop ancienne pour qu'elle puisse penser à une guérison. Je pense qu'il a été, là je ne peux pas le dire, je pense qu'il a été un enfant qui ne sourit pas.
Alors pas une guérison, mais peut-être pour lui la possibilité d'être autonome, pour lui la possibilité d'être un tout petit peu plus normal dans un monde, disons-le franchement, Elisabeth de Fontenay, qui a beaucoup de mal à faire une place à la différence, à la normalité, à tout ce qui dévie un tout petit peu de la norme. Ce frère, vous l'avez renommé Gaspard. Aujourd'hui, vous livrez votre secret tout en cherchant à percer son mystère. Il est en apparence, écrivez-vous, absent à lui-même, mais que se passe-t-il dans ce monde, dans son monde? De quoi est-il peuplé? Et quelle est sa place dans notre monde à nous? C'est aussi ça que vous cherchez en tentant de l'écrire, en tentant de le raconter. Vous êtes convaincu aujourd'hui qu'il a un monde intérieur, bien à lui?
Je veux être convaincu qu'il a un monde intérieur, mais je n'ai aucun moyen de le savoir, aucun moyen de le prouver. Je sais qu'il n'est pas une forteresse vide. Je l'ai trop connu enfant avec des fantasmes, avec des délires. Et puis il a trop de stéréotypies pour qu'il n'y ait rien derrière. Mais encore une fois, n'étant ni médecin, ni psychothérapeute, je ne peux pas induire le moindre sens de ce monde intérieur. Mais je forme la conjecture qu'il y a un monde intérieur. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien. Puisque aussi bien, on a compris peu à peu que chez les animaux eux-mêmes, il y avait un monde intérieur. Est-ce qu'on peut appeler ça un monde intérieur? Je ne sais pas. Mais un monde. Heidegger a dit que les animaux étaient des êtres sans monde. Je crois qu'il s'est beaucoup trompé sur ce point. Et je fais un petit passage, petite analogie très prudente, entre mon frère et certains animaux. Et je pense qu'il ne peut pas ne pas y avoir du sens derrière. Une direction, du désir meurtri, du désir qui ne peut pas s'exprimer, mais du désir. Du reste, le fait qu'il ait fait une psychothérapie à Paris, à l'âge de 15 ans, psychothérapie qui a libéré complètement sa parole, puisqu'il ne parlait pour ainsi dire pas, montre bien que les choses ne sont pas simples. Et de ce point de vue-là, j'ai une reconnaissance éperdue pour les travaux de Maud Mannoni, qui a tout fait pour psychanalyser, pour psychothérapie, pour faire une psychothérapie d'enfants anormaux, d'enfants arriérés, comme on disait. Et il n'a pas eu affaire à elle, il est trop vieux pour ça. Mais les travaux de Maud Mannoni qui mettent en cause les évaluations, les tests, les tests genre Binet-Simon, et qui dit que derrière l'arriération, il y a de l'inhibition, et que l'arriération est parfois un symptôme. C'est une chose qui m'a beaucoup porté dans l'écriture de ce livre, qui m'a beaucoup porté pour présumer du sens à sa vie.
Parce que vous avez évoqué déjà les neuroleptiques, il y a eu vraiment une camisole chimique pour lui quand il a été interné. Et c'est vrai qu'il y a une longue polémique controverse entre la psychanalyse, la psychiatrie et la neurobiologie, notamment aujourd'hui sur les causes et la manière de peut-être remédier à cette différence avec derrière tout ça une culpabilisation des parents et surtout des mères d'enfants différents, d'enfants autistes, derrière aussi cette notion de psychose infantile. Mettre des mots sur des univers, sur des sentiments auxquels on n'a pas accès, c'est aussi la démarche qu'a suivie Sandrine Bonner à l'occasion de la réalisation d'un documentaire autour de sa sœur lourdement handicapée. Elle s'appelle Sabine, c'est le titre de ce film extrait.
Sabine ?
Moi ?
Tu vas partir en vacances ?
Oui.
Tu vas aller où ?
Je sais pas encore, on sait pas.
Si, tu vas à l'île de Léron.
Comment tu le sais ?
Tu le sais pas, toi, on te l'a pas dit encore. Et on m'a dit que t'avais essayé de passer par la fenêtre. Tu me racontes ça ?
Je me suis pas... J'ai failli te jeter par la fenêtre. J'ai regardé à la fenêtre, comme ça.
T'as pas eu envie de jeter par la fenêtre?
Non.
Tu l'as fait une fois, ça?
Un jour, je me suis déjà jetée par la fenêtre.
C'est vrai que c'est un mode qu'elle connaît. C'est un mode de communication qu'elle a déjà employé. Donc de lui faire comprendre un petit peu d'où est-ce que ça provient et comment est-ce qu'on peut exprimer les choses de façon différente. Voilà, c'est...
Oui, parce que c'est un peu contradictoire, parce qu'elle elle s'exprime quand même très très bien. Mmh. Elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Mmh. Et en même temps, elle va passer par une défenestration pour exprimer le souhait de partir en vacances.
C'est quand même... Elle est quand même dans un passage à l'acte aussi, souvent. Et ça fait partie de son moyen de communication. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de la parole, il y a une facilité à parler, à dire les choses. Mais en même temps, le seul moyen qu'elle trouve pour bien marquer les choses et faire en sorte, j'allais dire quelque part, que les gens s'intéressent encore plus à elle, c'est le passage à l'acte.
Quelle forme d'écriture, quel langage avez-vous choisi
Vous, je voudrais juste vous dire que si j'avais pu parler avec mon frère, comme Sandrine Bonner
avec
sa sœur, j'aurais été très heureuse. parce que c'est une vraie communication, même si le passage à l'acte est complètement terrifiant, évidemment. Je n'ai jamais connu ça.
Et sans avoir réponse à tout, parce qu'on voit aussi l'intermédiaire, la soignante qui traduit aussi
ressenti. C'est ça, oui.
Du coup, pour raconter votre frère à vous, quel langage, quelle syntaxe avez-vous choisi ?
La plus classique possible. Parce que c'est la seule façon pour moi d'écrire. Et parce que la perfection de la langue, j'espère que ma langue est parfaite, peut-être que je me vante. Parce que la perfection de la langue a été une chose très importante pour mes parents. Mon père était avocat, il lisait ses plaidoiries à ma mère. Et quant à ma mère, qui était d'origine juive russe, et qui avait été née à Odessa, mais qui a fait ses études en France, la perfection de la langue, la perfection de la syntaxe, le choix des mots était quelque chose de tellement important que c'est une manière de lui rendre hommage que d'écrire le mieux possible. Voilà, ne pas se laisser aller aux moindres familiarités. Donc j'ai choisi une manière d'écrire, encore une fois, très, très convenue, mais aussi un peu chaotique. Et je revendique ce chaos. D'abord parce que je suis une diderotienne et que Diderot adorait les textes faits de pièces et de morceaux, la bigarrure, comme il disait. Et ensuite parce que parler de mon frère, ça ne peut être que chaotique. Ça ne peut pas être un discours suivi, systématique, unifié, quelque chose de discursif. Donc j'ai fait des petits paragraphes, un peu disparate, puisque j'ai alterné des paragraphes de philosophie, d'histoire de la psychiatrie, d'histoire du nazisme, de réflexions philosophiques personnelles sur Descartes, des citations d'Althusser, de Marguerite Duras. C'est tout ça est très, alors chaotique n'est peut-être pas le mot, mais très, encore une fois, très, très disparate. Et je l'ai voulu comme ça, je ne pouvais pas le faire autrement. Et je suis très reconnaissante à mon éditeur d'avoir accepté ce livre sous cette forme, et très reconnaissante aussi au prix Fémina, au jury du prix Fémina, d'avoir donné un prix à un livre qui est quand même assez bizarre.
Chaotique aussi est la mémoire, et c'est un livre de souvenirs, donc un livre qui fonctionne par bribes, par fragments.
Voilà.
Élisabeth de Fontenay, c'est lui-même qui lui fait défaut. C'est aussi une entreprise que vous avez entamée, mais qui était une entreprise risquée, puisqu'il vous fallait combler cette absence, sans le réduire, sans l'enfermer. Est-ce que vous avez eu peur de le trahir ?
Oui, bien sûr que oui. Et encore maintenant, j'ai le sentiment de divulguer un secret et de faire commerce de ce secret. Voilà, je me sens très coupable. Je me suis toujours senti très coupable vis-à-vis de lui, parce que j'ai le sentiment d'avoir tout pris. Et en même temps, je lui ressemble beaucoup. J'ai beaucoup de déficiences semblables aux siennes, mais tout de même, je lui ai tout pris. Et j'étais un peu le fils de mes parents, en quelque sorte. Et cette culpabilité originaire non, puisqu'il est né après moi, elle n'est pas originaire, ce n'est pas le péché originel, mais c'est quelque chose qui est très ancien, se double et s'accroît de la culpabilité commerciale de ce livre.
Sauf que c'est un partage aussi, écrire un livre, et en parlant de votre culpabilité, vous enlevez aussi peut-être un peu de culpabilité chez ceux qui se sont retrouvés ou qui ont ressenti les mêmes situations que vous, parce que vous parvenez à mettre des mots sur des sentiments ou des émotions que beaucoup cachent ou se cachent. Cette culpabilité, ce secret que vous avez peut-être le sentiment de trahir, vous le manifestez par ce choix que vous avez fait de changer son prénom. Oui. Vous l'appelez donc Gaspard, c'est le titre de l'ouvrage Gaspard de la nuit. Et vous lui rendez à la fin sa véritable identité, son vrai prénom, parce que vous n'avez plus peur qu'on puisse le reconnaître aussi. Et vous n'enterrez pas votre frère dans cet ouvrage. C'est pas un tombeau littéraire, c'est vraiment un ensemble de fragments destinés, et vous l'écrivez à l'inscrire plus lisiblement dans la communauté des hommes. Si je tiens finalement à laisser une trace de ton prénom, c'est qu'après que nous aurons l'un et l'autre disparus, sans descendance, notre nom et nos prénoms survivront un temps dans le clair-obscur des bibliothèques, qui sont les seuls tombeaux d'où il arrive parfois qu'un lecteur vous fasse revenir. C'est une entreprise pleine de vie, en fait.
Merci de me le dire.
Elisabeth de Fontenay, à travers ce livre, cette histoire de votre frère, je le racontais, vous essayez d'éclairer sa nuit à lui. C'est un soi qui n'a pas accédé à la possibilité ordinaire et prodigieuse de dire « je », écrivez-vous. Et en parlant de lui, vous parlez de vous. À quel moment vos biographies se rejoignent ou se sont-elles rejointes dans vos vies? Quand est-ce que vos vies se sont vraiment croisées?
Je pense que son existence différente a été présente dès mon choix de la philosophie et constamment présente dans mes orientations philosophiques et politiques aussi du reste. C'est-à-dire que je me suis toujours gardé à droite, gardé à gauche. Et c'est pas du tout ce que je vais le dire, la droite et la gauche, dans mon discours, là maintenant, mais je me suis gardé de tous les excès, en particulier d'excès du côté de l'animalisme. Je ne suis pas animaliste, je ne suis pas antispéciste. Je considère qu'il y a une singularité humaine, que l'être humain est un être doué de la double articulation de la parole, et que même mon frère, qui a l'air d'en être dépourvu, mais qui n'en est pas dépourvu du tout, parce que quand il s'exprime parfois, il est très, très syntaxique. Tous les êtres, même les sourds-muets, comme disait Descartes, même les fous, même les ceux qui sont privés de toute rationalité, disposent en quelque sorte cette double articulation du langage humain. Et par conséquent, mon frère m'a aidé à la fois à m'intéresser aux animaux, puisque je me demandais quel était son monde et je réfléchissais sur les mondes animaux. Je ne considérais pas que les animaux étaient sans monde. Et d'autre part, il m'a permis de ne pas dériver dans cet antispécisme qui est très à la mode aujourd'hui et contre lequel je me bats, même si je peux donner l'impression de lâcher la cause animale. Je ne la lâche pas du tout. Mais je pense que si on n'est pas conscient de la différence humaine, on ne peut pas se sentir responsable des animaux. Les animaux ne sont jamais responsables de qui que ce soit. Sauf les mères de leurs petits, bien entendu. Mais est-ce qu'on peut appeler ça la responsabilité? Je ne sais pas.
Oui, vous racontez ce déplacement paradoxal, comme vous le nommez, Elisabeth de Fontenay, 20 ans après Le silence des bêtes, votre ouvrage phare. Vous rapprochez son silence à celui de l'animal. Mon attention à l'histoire immémoriale du pâtir animal a trouvé son origine dans une méditation sur le quasi-mutisme de mon frère. Il vous a appris le silence, il vous a appris aussi la vulnérabilité et peut-être la sensibilité de l'autre.
La sensibilité de l'autre, c'est-à-dire...
La sensibilité à l'égard de l'autre.
La sensibilité à l'égard de l'autre. Alors, j'espère qu'il m'a un peu enseigné ça. Encore que je me reproche beaucoup de comportements un peu rudes avec lui. Mais en tout cas, c'est sûr que j'étais constamment, dans toute ma vie, dans toute ma pensée, sensible à la vulnérabilité des vivants. Des vivants.
Ce qui ne veut pas dire que toute vie soit égale.
Non, bien sûr, c'est ça qui est important. Mais vulnérabilité des vivants, de ceux qui ne sont que vivants. Il pourrait se faire que mon frère ne soit que vivant. Je ne le crois pas. Mais il pourrait se faire qu'il ne soit que vivant. Il y a des cas pathologiques terrifiants qu'on ne connaît pas, qu'on cache. Où vraiment, un enfant ou un être adulte ne donne aucun signe de sens. Eh bien, même si on a l'air d'être que vivant, on reste quelqu'un de vulnérable qui mérite le respect absolu. Et ça, c'est une parole politique que je prononce. Puisque le fait qu'en France, on s'occupe tellement mal des autistes que tous les parents d'autistes mettent leurs enfants en Belgique, c'est quand même un signe extrêmement inquiétant de notre culture, de notre civilisation.
À l'heure où on parle beaucoup du bien-être animalier, vous pensez que lui, si on fait ce rapprochement entre les silences, vous pensez qu'il a eu une bonne vie ?
Mais non. 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 Je pense qu'il aurait une bonne vie s'il vivait avec moi, mais je ne peux pas vivre avec lui. Non, je ne pense pas qu'il a eu une bonne vie. Il a eu la meilleure vie possible, car ma mère a trouvé une institution merveilleuse où on le garde étant âgé. La même institution de l'adolescence à la vieillesse, c'est quelque chose de très important, ça. Mais je ne considère pas qu'il ait eu une bonne vie, non. La bonne vie, non. Je crois qu'il ne sait pas ce que c'est qu'être heureux. Il ne sait pas ce que c'est. Il sait ce que c'est que d'être content, mais pas, il ne sait pas ce que c'est que d'être heureux.
Est-ce que ça veut dire qu'il est malheureux ?
Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Il est malheureux dans certains cas. Quand je me dispute avec lui et que je suis très en colère, il vient se réconcilier parce qu'il ne supporte pas. Il est très malheureux, il est content quand on se réconcilie.
Sur la vie, vous racontez cette scène de votre père critiquant la manière dont il se tenait à table. Et comme d'habitude, il marmonnait quand votre père lui disait quelque chose. Une fois, il a répondu
Il répondait rien, ouais. Il se taisait. Mais alors...
Et une fois, il a répondu d'une voix très forte, « Laissez-moi vivre ». Et vous dites, ce cri aurait dû être le commencement d'une véritable existence. Pourquoi n'a-t-on rien attendu de ce cri ? Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé mourir ? Mais en même temps...
Le cri, on a laissé mourir le cri.
Le cri.
On a pas laissé mourir mon frère.
Bien sûr.
Parce que mes parents étaient des bourgeois des années 50. Et que ils n'avaient pas de culture du tout psychanalytique. Que la psychanalyse elle-même était encore... exceptionnel. Lacan n'avait pas encore eu lieu, si je puis dire. Et ils ont eu, je pense, je reconstruis là, ils ont eu, je pense, peur de ce qu'il allait devenir s'il se mettait à parler, parce qu'il s'est mis à parler beaucoup quand il a fait cette analyse, cette psychothérapie. Et ils ont eu peur de la violence qui pouvait se réveiller en lui. Et je crois que tout le monde a fait, tous les gens dans leur cas ont fait la même erreur à l'époque, à savoir faire appel à ces fameux neuroleptiques, ces premiers neuroleptiques miraculeux qui étaient des assommoirs durables, des assommoirs pour la vie.
Elisabeth de Fontenay, vous racontez comment sa présence, sa simple existence vous a ouvert les portes d'une philosophie critique d'Adorno à Horkheimer. Quelle part du vivant, quelle humanité ces philosophes ont aussi réhabilité. Vous racontez vos principes, ceux qui vous ont guidé à travers lui dans Gaspard de la Nuit. Cette philosophie que vous voyez, que vous vivez moins comme une fuite vers des concepts, vers des idées abstraites, plutôt que comme un mode de dévoilement personnel. À ce sujet, je voulais vous faire entendre la voix d'Alexandre Jolian, philosophe, auteur de La Sagesse espiègle. Il est infirme, moteur cérébral. Il l'a écrit dans Trois Amis en quête de sagesse. Il témoignait de l'importance de la philosophie dans sa vie dans une émission hors champ sur France Culture. C'était en 2010.
Quand j'ai dit à mes parents « je veux faire de la philosophie », ils ne savaient pas ce que c'était. D'ailleurs, je suis très touché d'être ici avec vous, parce ce qui a déterminé un peu ma vocation, c'est des rencontres, mais c'est aussi le cercle de minuit. À l'époque, je ne pouvais pas lire des livres, je voyais des philosophes parler de sagesse, et c'est ça qui a aussi déclenché. Donc mon premier contact à la philosophie, c'est quelques livres, mais surtout la télévision, et c'est là que j'ai pris conscience d'une vocation. La philosophie pouvait donner sens à l'épreuve, et mes parents ont fait une confiance absolue. J'ai étudié la philosophie et aujourd'hui, grâce aux livres, j'en vis et ça fait presque peur de voir à quoi ça a tenu. Des rencontres. C'est pour ça que je crois de moins en moins à la maîtrise de la vie. Je crois que la vraie maîtrise, c'est se défaire de l'idée d'une maîtrise de la vie, s'abandonner mais sans résignation. C'est-à-dire tout mettre en œuvre pour aller mieux, mais être détaché du résultat. Ça ne m'appartient pas de guérir mes blessures, mais d'en faire quelque chose peut-être.
La maîtrise, c'est beau ce qu'il dit sur
oui,
ça.
La maîtrise, c'est se défaire de la maîtrise. Alors ça, ouais. ça me plaît beaucoup.
Est-ce que pour vous, la philosophie vous a aussi permis de lâcher prise ?
Ah ben, j'ai toujours essayé de faire servir la philosophie au lâcher prise, au dessaisissement.
Au dévoilement.
Au dévoilement, mais ce n'est pas la même chose. Le dévoilement est quand même... On dévoile une statue, on enlève le rideau qui la cache. Le dessaisissement, c'est tout de même de se défaire... De ces langages tout faits, de ces opinions toutes faites. Voilà, c'est. Peut-être que c'est ça l'esprit critique. Mais l'esprit critique, non pas comme maîtrise du discours de l'autre, des autres, mais l'esprit critique comme dessaisissement de tout ce qui en soi. Et de l'ordre de ce qu'on appelle en philosophie la doxa, l'opinion commune, se dessaisir. Et de se dessaisir de la maîtrise qu'on croit avoir parce qu'on écrit bien aussi.
J'avais une dernière question à vous poser sur le regard que les autres ont pu porter toutes ces années sur ce frère quand il n'était pas loin, pour ceux qui l'ont connu. Vous racontez ce sentiment de honte aussi qui a pu vous habiter à côté de la colère, à côté de l'agacement. Comment vous expliquez aujourd'hui que notre société ait tellement de mal à accepter la différence ?
Parce que la société dans laquelle nous vivons est aussi une société de compétition, de libéralisme. Vous voyez Macron, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, mais le modèle Macron fait que toute personne qui ne gagne pas bien sa vie, qui n'est pas conforme au modèle social, est diminuée, est rejetée. Tout nous porte à rejeter ce qui ne réussit pas dans la vie.
Est-ce que ça ne tient pas aussi de quelque chose qui serait la peur ?
Quelque chose qui fait la peur.
Est-ce que ça ne tient pas aussi d'une peur dans cette différence de l'autre ? Est-ce qu'elle ne nous fait pas peur ?
Bien sûr. Et je raconte dans ce livre comment des gens d'une petite commune des environs de Paris ont fait toute une campagne pour empêcher qu'une maison pour handicapés s'installe. Et j'explique que ces braves gens, qui n'étaient pas des gens méchants, ne supportaient pas de voir des êtres différents, des êtres qui leur semblaient monstrueux, parce que qui semblaient absents justement du sens. Et voilà. Le regard, vous savez, moi j'ai pas de leçon à donner, parce que mon regard sur mon frère est parfois très, pas cruel, mais très 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 dur. J'ai pas de leçon à donner. Mais n'empêche que si on regarde mon frère un peu de travers, je deviens absolument féroce. Je peux faire des scènes épouvantables en public. Donc c'est très compliqué. C'est-à-dire une défense farouche de sa différence et en même temps une compréhension du fait qu'on supporte mal cette différence.
Aujourd'hui, Gilbert Jean, votre frère, vit à Toulouse, près de Toulouse. Vous lui avez apporté ce livre ?
Non.
Vous ne le ferez pas ?
Non. Ça ne lui dira rien. Merci. Il n'est pas comme la sœur de Sandrine Bonner.
Parce que ça ne lui dira rien. Merci beaucoup Elisabeth de Fontenay.
Merci à vous.
Gaspard de la Nuit, prix Femina Essai. Votre livre est paru à la rentrée chez Stock. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Grande Table qui m'a aidé à préparer et à programmer cette émission, à Maya Neskovic avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées, à Henri Leblanc avec Oriane Delacroix et Jean-Christophe Brianchon pour La Grande Table Culture. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Jacques Hubert. Très bel après-midi à tous sur France Culture.